9h dans le bureau de par Jupiter.
Ouais, Alex, avec toutes les nouvelles règles d'isolement, je suis sûr qu'il y a moyen de sécher Jupiter.
Tu les as comprises, toi, les règles d'isolement?
Oui, évidemment, c'est simple. Ah, si t'as le variant Omicron, tu restes confiné 5 jours. Okay. Sauf en cas de symptômes, évidemment. Ah. Ou bien sûr, en cas de PCR positif.
Oh, mais non, ici, il y a déjà trop d'exceptions, moi je comprends rien.
Attends, c'est simple. Et si t'es cas contact, t'as plus besoin d'être isolé. Ah. Mais tu dois faire un test PCR ou antigénique et un autotest à J+2, J+4.
C'est où ça? J+2
Non.
J+4.
Mais non, c'est pas des endroits. Ah. C'est le nombre de jours après le premier test.
Ah, bien sûr, oui, bah oui. J+2. Tu vas être comme tu dis.
Non, mais t'inquiète, on va trouver une faille dans tout ça.
Salut les garçons.
Salut Charline.
Qu'est-ce que vous mijotez là?
Bah, il essaye de comprendre les nouvelles règles d'isolement.
Ouais, mais parce qu'en plus, pour par Jupiclass, le protocole sanitaire, il a changé. Hein.
Ah bon?
Non, mais vous allez voir, c'est très simple. Bon, si vous êtes positif, vous restez isolé 5 jours, si et seulement si le test PCR ou antigénique réalisé le 5e jour est négatif et si vous n'avez pas de symptômes depuis 48 heures.
Et si on se lave les dents 3 fois par jour avec la main droite?
Ouais, et si on est en phase montante du calendrier lunaire pour les natifs du 3e dégant, j'imagine.
Toujours rire. Vous vous rendez compte un petit peu de la gravité de la situation?
Non.
Bon bah voilà, moi j'ai pas de remplaçant, je vous signale. On a pas de capteur de CO2 dans le bureau et on manque de FFP2.
Oui, du coup t'as raison, ça devient dangereux de venir en classe.
Ah oui, et en plus, Omicron, beaucoup plus virulent chez les enfants.
Oui, c'est vrai.
Je vous rappelle que vous n'êtes pas de vrais enfants et qu'on n'est pas dans une vraie classe non plus. Hein.
Ah bon, on nous aurait menti.
Ouais, mais du coup ça sert à rien qu'on essaye de sécher une fausse classe.
Ah oui.
Et comme je suis pas un vrai enfant, je fais ce que je veux. Et je peux partir si je veux.
Oui, bah c'est ça. Il est parti où là?
Ah bah, à J+2, je dirais. Ou à J+4.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la grande fête païenne de l'actualité. Et voici la devise du jour. La bave du crapaud n'atteint pas le degré de vulgarité du président de la République. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour Charline.
Vous êtes allée chercher un nouveau classique tout au nord de l'Europe. L'auteur est la première femme à avoir reçu le prix Nobel de littérature, Selma Lagerlöf. Le roman s'intitule « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède ».
Il faudrait venir l'été.
Sans moi. Pour l'instant, c'est l'hiver et on se les gèle.
Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Nous allons vous confier pendant 5 minutes l'éducation politique des pitchouns de France Inter.
C'est important.
Faites-en bon usage avec mauvais esprit.
Eh bien, les pitchouns, comme Emmanuel Macron a été un tout petit peu vulgaire dans une interview hier, j'ai décidé d'aller voir les gens pour tenter de rattraper le coup.
C'est là qu'on voit que Macron, il a des couilles. Hein.
J'ai échoué.
Et aujourd'hui, la Jupi Masterclass de cinéma vous est proposée par Olivia Cotte, bonjour.
Bonjour,
vous proposez un nouveau concept déjà, une chronique 3 en 1.
Oh là là.
Vous évoquerez Chantons sous la pluie, Les Rois du patin et First Co. Ces trois films ont deux thèmes en commun qui nous ressemblent, qui sont formidables, c'est la joie et l'amitié.
On peut même plus être malheureux tranquille.
Ouais, c'est ça. Et à mes côtés aujourd'hui, Alex Vizorek.
Mais oui, bonjour Charline, laissez-moi vous présenter le reste de l'équipe. Il y aura également le seul ventriloque qui est plus drôle que sa marionnette. C'est Thomas Bidguin, bonjour.
Ouais, bonjour à tous et bonne année. Et moi je viens vous parler de motivation. C'est le début, c'est janvier quoi. C'est
tant mieux que ce soit vous qui vous en occupiez. Il y a des chanteuses à voix, puis il y a des chanteuses à vannes. Elle sait clairement les deux. C'est Guédré, bonjour.
Ah mais bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous chanter?
Eh bien je vais parler aux enfants des vœux de la nouvelle année.
Oh, mais merci d'avance. Et enfin, celle qui met les points sur les i, mais elle a d'autres compétences que ça en matière de linguistique, c'est Laïlia Véron.
Bonjour.
De quoi allez-vous nous parler?
On va parler pour la rentrée des fautes qui deviennent des règles, histoire d'arranger ça.
Ça, c'est bien.
Ça va faire à Alex,
ça. C'est bien. On dirait ma vie.
Il fait beaucoup évoluer la langue.
Ajoutez à cela un journal qui va bombarder des exercices qui vont brocarder un dessin beau à regarder et vous obtenez une émission où on va pas s'emmerder.
Eh oui, voilà. Allez, en route mauvaise troupe.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Non, par Jupiclass.
Au boulot.
Mais au boulot très bientôt, Olivia Cotte.
Oui, oui.
Bienvenue dans l'équipe. Vous êtes actrice et scénariste et on vous a vu au cinéma, notamment dans Les Gazelles ou Antoinette dans Les Cévennes et à la télévision dans Vous les femmes ou Scènes de ménage. Pour venir ici, Olivia Cotte, on vous a interrompu. Vous êtes en pleine écriture d'un film. C'est ça?
Tout à fait.
Qui s'appellera Le désastre et la joie, on dirait le titre d'un bouquin de philo. Alors, quel désastre, quelle joie, si vous pouvez en parler?
Oh non, vous allez voir le film.
Oui, bien sûr.
Je trouve que le titre, déjà, voilà, ça résume bien.
Ça parle de mon premier mariage.
Absolument, ça peut parler de tout ce que vous voulez.
Alors, nous qui avons été autour de vous pendant la préparation de cette chronique de 2 minutes 30, le film 2046. On l'attend pour quelle période?
Bon, dans 2 ans.
Ah oh, bah ouais,
oui, voilà.
Je croyais que vous alliez dire le film est autobiographique.
Olivier Acote, c'est possible de continuer à tourner quand on écrit un film ou vous avez...
Justement, il faut s'arrêter un petit peu.
Ah oui, voilà.
Donc là,
s'arrêter un petit peu, ça veut dire quoi?
S'arrêter de tourner un petit peu pour pouvoir avoir du temps pour écrire.
Ouais. Mais vous êtes quand même en une sorte d'alternance.
Mais là, j'ai beaucoup enchaîné de tournages, dont 2 films qui vont être, je pense, chouettes. Mm-hmm. Un film qui s'appelle Péta ou Schnock, réalisé par Édouard Deluc, qui va être très gai, je pense. Mm-hmm. Et un film, pour l'instant, le titre provisoire, c'est Les Cyclades, de Marc Fitoussi. C'est un duo avec Laure Calamy, on fait un duo d'amitié, toutes les deux, avec Christine Scott-Thomas. Et ça va être vraiment bien.
Un rôle de composition, donc.
Comment ?
Vous ne vous entendiez pas humainement avec Laure Calamy avant.
Vous se méprise profondément.
Vous avez joué ensemble dans Antoinette dans les Cévennes.
Oui, puis on se connaît depuis quasiment, j'ose pas dire, très longtemps.
Très bien. Alors attention parce que vous allez répondre devant Thomas Bidguin, qui est quand même scénariste émérite. Par quoi on commence quand on écrit un film alors, Olivier Acote?
On observe, je ne sais plus qui disait écrire c'est observer. On observe et après on écrit.
Mais voilà. Et après, on réécrit.
Après, on réécrit, on réobserve. On a des petits moments de flou et de pétrification de l'intérieur. Mais on observe et on écrit, en gros.
Et donc, dans l'observation, à quel moment on se met à la table et on commence à écrire alors?
À chaque fois, je regarde Thomas, du coup.
Bah, quand on a un flingue sur la tête.
C'est un peu ça. Quand malheureusement, il y a un producteur, un distributeur un peu fou qui a mis de l'argent sur la table et qui dit maintenant, voilà, t'es obligé. Ah oui, d'accord.
Ah bah, ça a le mérite d'être clair, nous. Nous étions dans les cuisines du cinéma français.
Ah, elles sont belles.
Une actrice avec nous et donc un scénariste qui détricote le storytelling des autres. Voici Thomas Bidguin.
Oh là, d'accord, ben donc c'est à moi. Génial, voilà. Et c'est le début de l'émission et le début de l'année. Tout le monde parle de ce début d'année. C'est le début de l'année, oui, mais laquelle? On ne sait plus trop parce que, bon, ça, elles finissent pas toutes par se ressembler un peu. On nous dit 22. Pourquoi pas? À mon époque, on disait 22 les v'là. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Hey, 22, les v'là. Ben 22, on y est. Mais les v'là qui? Voilà. Eh ben, au vu de l'actualité de ce mois de janvier, les mêmes. Enfin, plutôt les mêmes. On aurait rêvé d'un coup d'essuie-glace 21-22, mais non, rien. On fait plutôt du surplace. Heureusement qu'ils appellent ça un variant, parce que tout le reste est assez inchangé. Et c'est pas Valérie Pécresse qui va nous réveiller. Elle a annoncé la composition de son orchestre. Que des hommes, et pas les plus frais. On dirait une sortie de boîte en province à 4h du matin. Dans un souci de cohérence, son cabinet fantôme est uniquement composé de revenants. Donc, Copé. Non mais... Copé, quoi. Ben ouais, voilà. C'est marrant. C'est marrant comme autour des candidates à la présidentielle, on voit jamais que des hommes. Les candidats, eux, ils sont un peu au moins obligés de choisir des femmes, ou de poser avec la leur dans Paris Match. Mais les candidates, non, elles sont au-dessus de ça. Même Hidalgo, qui est pas au-dessus de grand-chose, puisque on lui donne 2%. En dessous, il reste la bière sans alcool et Jacques Cheminade. Bon, voilà. Bon, elle a annoncé qu'elle relançait sa campagne. Ça faisait bien 3 ou 4 jours qu'elle n'avait pas annoncé ça. Enfin voilà. On se dit qu'on aura peut-être du neuf avec Taubira. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Taubira? Eh ben, elle hésite. Et ça fait quoi? Ça fait une petite vingtaine d'années qu'elle hésite. On l'adore, Taubira. Mais vraiment, moi, je l'adore. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'elle peut sûrement faire mieux que de hésiter à chaque fois. Mais enfin bon, à ce niveau-là, c'est un choix de vie. Enfin voilà, tout est là, tout est en place, et depuis un moment, l'histoire est prête à démarrer, mais il nous manque quelque chose. Et ce qu'il nous manque, peut-être que c'est de la motivation. Parce que dans le storytelling, les personnages doivent avoir une motivation. Ils doivent avoir un but, ça on le sait, et un but là, ben, pour ces candidats c'est assez évident, mais ils doivent aussi avoir, et surtout, une motivation. Et c'est là que ça devient compliqué. Romain Duris, par exemple, s'il veut construire la Tour Eiffel, ben, c'est pas juste pour entasser des boulons. Non, c'est pour reconquérir un amour de jeunesse, et ça, sa motivation. Et sans motivation, l'histoire se se réduit juste à son objectif. Et ça, c'est un peu court. On se demande bien ce qui, en ce début d'année, pourrait venir nous remotiver un peu. Qui pourrait égayer ce sombre mercredi, devenu triste jour des enfants masqués? Il faudrait un personnage flamboyant et inattendu. Il faudrait... Ah, mais bien sûr.
Mais non.
Mais Covidou. Covidou.
La marionnette.
Ouais, voilà.
Merci, madame.
Parce que les gens n'ont pas l'image.
Hein. Ah, oui. Non, c'est malheureux. Oui. T'as vu un peu l'accueil? Ringard.
Quoi? Ouais, allez. Bah, ça commence bien, Covidou.
Mais j'ai motivé.
Bah, t'as l'air en forme, toi, pour ce début d'année.
Ah, ben oui. C'est la nouvelle vague.
Ah oui, Covidou. Et oui, ça te plaît, ça, l'Omicron? Le port du masque obligatoire partout?
Ah ben, un peu, ça me plaît. C'est 60 millions de ventriloques.
Ouais, bon, vu comme ça, c'est sûr.
Enfin, 60 millions de ventriloques et il fallait que je tombe sur toi. Tu parles d'une motivation.
Bon, t'as fait quoi alors pour les vacances? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi.
J'ai travaillé.
Ah ouais, t'as travaillé?
Ouais, comme Charline. J'ai travaillé tout le temps.
Ah oui.
J'ai inventé un truc.
Ah bon, t'as inventé un truc? Je suis surpris.
Vous avez beaucoup progressé.
Je suis tellement surpris. Tellement surpris par toutes ces réponses.
Il y a une magie,
ah bon
là.
Ouais, c'est... Ouais, je joue le « ah bon ». Ah bon ? T'as travaillé ?
Ouais, j'ai inventé un truc.
Ah bon ? T'as inventé un truc ?
Ouais, j'ai inventé un truc. J'ai inventé le test pré-positif. Ah oui, comme ça, pas la peine d'attendre 20 minutes. On est pré-positif, on gagne un temps fou.
Ah non, écoute, Covidou, on peut pas rire avec la Covid, c'est une maladie grave. Il paraît que soit on en meurt, soit on en reste idiot.
Je sais, Viso, Rec l'a eu. Très drôle, merci monsieur.
Très drôle, voilà. Ouais. Et pour la motivation de nos auditeurs, est-ce que tu as quelque chose à proposer?
Oui, eh bien je leur présente. Du fond de mon petit cœur, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année.
Oh, ça, c'est génial aussi. Quand même.
Bonne année, bonne année
et bonne année.
Merci.
Ça va être long et chiant. Merci Covidou.
Merci Thomas Bidguin et Covidou. Bientôt en vidéo, bien sûr, pour avoir Covidou. Cyndi Lauper avec Alain Toussaint et B.B. King early in the morning, alors qu'il est 17h23 sur France
bien
Inter.
Bien sûr, on rigole.
Mais bien sûr. Alex Vizorek, est-ce qu'on ne ferait pas un petit journal?
C'est le moment, c'est l'instant.
Allez.
Merci, j'en profite pour le dire à tous les professeurs, tous les directeurs d'école, chefs d'établissement. Je sais très bien que c'est difficile, que tout le monde c'est compliqué, difficile, mais le jeu envoie la chandelle.
Le journal de presque 17h17.
J'ai besoin de vacances, très longues vacances. D'ailleurs, je ne pense pas revenir.
Et on commence par les titres.
Emmanuel Macron a déclaré aux Parisiens aujourd'hui en France qu'il emmerdait les antivax, des propos qui ont suscité quelques réactions.
Alors Charline, figurez-vous que mes feuilles se sont mélangées et qu'on ne m'a jamais donné la page 5.
Ça va être compliqué ce journal.
Sachant que Macron sort avec une prof, on peut donc en déduire que la pédagogie n'est pas une MST.
Surtout suivez-nous sur franceinter.fr en streaming parce qu'il y a de la cascade. Je vais revenir à mon micro, c'est
lui. Je croyais que ça faisait partie du sketch.
Je reviens à mon Omicron tout de suite.
C'est un journal qui va être complètement improvisé. Restez bien à l'écoute, c'est un moment de radio.
Attendez, parce que la blague n'était pas finie.
Ah bah non.
Après, au moins, cette fois-ci, on peut pas lui reprocher de pas avoir de stratégie de vaccination.
Eh oui, mais bon, Emmanuel Macron, sa stratégie, c'est d'emmerder les gens pour essayer de les convaincre. Mais il y a déjà des gens qui ont essayé ça et ça n'a pas marché pour les témoins de Jéhovah.
Et les brèves.
Et les brèves, Charline, j'ai très envie d'emmerder les gens qui n'aiment pas les brèves. Oh, et j'irai jusqu'au bout. Non. C'est la stratégie.
Voilà, et ça, la page des brèves, il l'a,
évidemment.
Allez, on commence par la politique.
Ah, voilà. En fait, il ne voulait pas enflammer l'Assemblée avec sa déclaration. En fait, notre ami Macron. Et donc, qui c'est qui est allé s'y coller? Eh bien, c'est notre ami Aurore Berger qui a expliqué.
Vous savez très bien qu'une interview, elle est programmée à l'avance. Elle était programmée, je pense, pour sortir en effet demain. Et normalement, nous aurions déjà dû avoir pu réaliser le vote sur le pass sanitaire ici à l'Assemblée nationale.
Et voilà, en fait, il voulait pas enflammer l'Assemblée avec sa déclaration pendant qu'il bossait. Il voulait enflammer l'Assemblée avec sa déclaration après qu'elle ait été votée. Ça aurait été plus élégant, mais voilà, ça c'est pas mieux.
À la droite maintenant, oui. Valérie Pécresse a dévoilé donc son équipe de campagne en vantant la parité. Sauf que l'organigramme compte seulement 31 femmes contre 59 hommes.
Aïe, aïe, aïe. De toute manière, depuis Big Malion, on le sait, les Républicains ont du mal avec les chiffres.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la dissolution du groupuscule d'ultra-droite, les Zouaves Paris.
Oui, mais si on dissout tous les groupuscules de Zouaves, c'est bientôt la fin du gouvernement.
International maintenant, la Corée du Nord a tiré ce qui serait son premier missile balistique de l'année.
Et oui, Kim Jong-un aurait déclaré la veille dans un quotidien régional « J'ai très envie d'emmerder les Coréens du Sud ».
Une page société à présent, car le pape a dit regretter que les animaux prennent parfois la place des enfants.
Oui, cela dit, ça lui aurait quand même fait moins d'ennui si les prêtres avaient caressé des labradors.
Retour en France, où on apprend qu'un homme s'est introduit au château de Versailles. Pourquoi faire? Il a simplement profité pour manger un macaron la durée et boire du gel hydroalcoolique.
Oui, dur début d'année pour Stéphane Bern.
Quand c'est étrange comme mélange.
Non, moi j'ai beaucoup de respect pour, franchement, pour les gens qui boivent du gel hydroalcoolique, parce qu'il y a pire, il y a des gens qui boivent de la bière française.
Ouais, les brèves.
On va vous remigrer là.
Écoutez, c'est pas des brèves aujourd'hui, c'est un hommage.
On a perdu quelqu'un encore?
Je crois, Charline. Manuel Valls a publié un livre pour combattre Éric Zemmour.
Aïe.
Je crois qu'il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Dans un mois, il va passer à la télé parce qu'il aura sorti un livre de mots croisés. C'est dur. Ça m'a fait penser à un autre Manu.
Et Manu rentre chez toi, la padante et ta passe. Bois un coup de sangria et fend la carapace. Je croyais qu'un espingouin, ça pouvait pas chialer. Sauf parfois les lendemains d'élections. De racler, t'as été un peu vite pour tatouer j'aime Macron. L'endroit où palpite ton grand cœur de grand con. Déconne pas Manu, je crois que ça vaut plus la peine. 10 élections de perdu, les gens veulent pas que tu reviennes. On était tous élus, toi t'étais plus personne. Tu disais j'ai mal au cul, je l'attends à Barcelone. T'as croisé cette nana qui dansait le flamenco. T'as dit elle est pour moi, elle est blanche toute blanco. T'as raté la mairie. Mais je suis sûr qu'au fond de toi, tu rêves de l'Italie, du Pérou, du Ghana. Et déconne pas Manu, je crois que ça vaut plus la peine. 10 élections perdues, le monde veut pas que tu reviennes. On n'est plus amoureux, Manu, faut que tu t'arrêtes. On peut pas être heureux avec une girouette. T'es même capable, je crois, pour une belle promotion. Sous secrétaire d'État, voter Benoît Hamon. Reste bien sûr BFM, nous expliquer comment résoudre tous les problèmes que t'as pas résolus avant. Mais déconne pas, Manu, je crois que ça vaut plus la peine. 10 élections perdues. Y'a que toi qui veux que tu reviennes.
C'est triste,
c'est
triste.
Beau.
Oui, mais je me souviens, c'est pas mal.
Putain, j'étais émouvant. Merci Renaud Vizorek, oui, c'était vachement bien.
Il écrivait des belles chansons quand même.
Ouais, ça,
il imite bien, il imite bien.
C'est pas mal, hein. Guédré, vous qui êtes spécialiste, que vous en pensez?
C'est un grand oui.
Je peux faire les premières parties.
Vous allez à Baltar.
Ah oui, ouais,
Merci beaucoup Alex Vizorek. Vous écoutez France Inter, c'est un jour de Parjupiclas. Et la recherche de classiques littéraires de Juliette Arnaud, parlons-en. Elle vous a conduit en Suède au tout début du XXe siècle. L'auteur Selma Lagerlöf, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Tu parles, c'est facile, elle est suédoise.
Vraiment, ouais. Oh là, j'aurais pas osé.
Elle a habité en face. Ouais.
Allez, ça va que c'est Charline. Le roman. Ça serait Alex, j'aurais crevé un oeil.
Le roman, c'est super. La partie misogyne de l'émission, c'est moi. Le roman s'intitule, écoutez bien, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède.
Au centre de la littérature adulte, il y a les héroïnes et les héros. Et les meilleures héroïnes ou héros, les éternels, les inoubliables, sont souvent des gens complexes, nuancés. Pas forcément des gens bien sous tout rapport, pour ne pas dire que ce sont souvent des connards. Au hasard, ma chère Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent, ou mon non moins cher Pierre Bezoukov dans Guerre et Paix, qui met plus de 2000 pages à savoir à peu près qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa peau. Et toi, entre-temps, bah, t'as envie de lui faire la peau, quelque affection que tu aies pour lui. Et puis la grâce de la littérature, c'est ensuite de raconter comment ces héros qui sont pas terribles s'améliorent. Bon, Pierre, il va y mettre le temps, hein, on l'a vu, et dans le cas de Scarlett O'Hara, bah, ça sera pour demain, parce que demain est un autre jour, comme elle le dit si bien. Dans la littérature enfantine ou la littérature jeunesse, en fait, eh ben, c'est pas tellement différent. Ainsi, le plus connu des romans de la comtesse de Ségur, c'est Les malheurs de Sophie. Et Sophie, bien sûr, c'est pas une petite fille modèle, d'où la pléthore de malheurs s'abattant sur elle. Selma Lagerlöf, grande lectrice depuis son enfance, institutrice avant d'être romancière, elle sait tout ça. Et c'est sans doute pour cette raison qu'elle entre dans son récit de la sorte, vraiment les deux ranjos à bout clouté en avant. Première phrase. Il était une fois un garçon. Bon, déjà, ça part mal, selon moi. Il s'appelle Nils Holgersson, il a 14 ans. Il ne valait pas grand-chose. Son plaisir, c'était dormir et manger, sans compter qu'il aimait faire des bêtises. Fin de la première phrase. Donc, le genre de bêtises de Nils Holgersson, eh ben, comme il vit dans une petite ferme pauvre avec ses parents, il aime particulièrement, cet ado, être odieux avec les bêtes de la ferme.
Ah ben, c'est bien, Nils, super, génial. Je te remercie. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein.
C'est un vieux son qui traîne sur Internet, ceux qui savent, savent. Heureusement, il y a une justice tout de même, dans les livres en tout cas, et le môme Nils, comme il s'amuse à torturer à un moment une créature toute petite nommée Tonte, c'est une sorte de lutin gardien de la maison en pays scandinave, et ben c'est le moment où il va payer l'addition, Nils. Le Tonte va le transformer, Nils, en Tonte, c'est-à-dire en une minuscule créature de la taille d'un pouce. Et comme Nils est un crétin fini, mu par un instinct de propriétaire et oubliant qu'il n'est plus assez grand et costaud, il juge utile de s'accrocher aux plumes d'un jeune jar domestique pour le retenir à terre. Jar qui, à ce moment précis, s'envole de la ferme pour tenter de suivre une bande d'oies sauvages qui passent dans le ciel. Le jar domestique, mais épris de liberté et d'aventure, prend sa chance. Et là, il se met à voler comme un oiseau avant qu'il soit juste assez vieux pour qu'on lui rogne les ailes. Et il s'envole, tant bien que mal, péniblement. Malgré lui, il a Nils à son bord. Hein. Nils qu'il déteste, parce que tous les animaux détestent Nils. Nils qui lui ordonne de descendre, qui lui dit qu'il n'est pas capable de suivre les oies sauvages dans leur grand voyage du printemps vers le nord, qui n'a ni le mental, ni les muscles.
Ah ben c'est bien, Nils, super, génial. Je te remercie. Oh, t'es vraiment un sale petit con. Hein.
Sauf que le jar blanc, ça va le galvaniser et ça va lui donner la niaque pour s'accrocher au rythme des oies sauvages. Et Nils alors ? Alors, je cite Selma Lagerlöf, « Jamais auparavant, Nils n'avait voyagé à une telle vitesse. Et il n'avait jamais imaginé qu'en haut, l'air pouvait être si frais, si chargé de bonnes odeurs, d'humus et de résine. C'était comme quitter tous les soucis, tous les chagrins et tous les déboires imaginables. Bah alors, Juju, c'est quoi ce livre immoral où les vilains enfants font des kiffs de junkies au lieu d'être punis ? Deux choses. La première, les mômes sont aussi malins que nous. Et s'ils ont choisi un roman de plus de 600 pages depuis des générations et dans le monde entier, croyez-moi, ils savent ce qu'ils font. La deuxième, Nils, il va en baver. Il va grandir tout en gardant la taille d'un pouce. Il va surtout, au milieu des animaux, apprendre à devenir un meilleur être humain. Comment ? La semaine prochaine. Oh. Merci. Oh. Bisous. Merci.
Merci, Juliette Arnaud. C'était bien ce petit réveillon sous Covid ?
J'ai une patate.
On est heureux de vous retrouver, en tout cas. Olivia Cotte est avec nous aussi pour la Jupi Masterclass de cinéma. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez prochainement pouvoir vous voir à l'écran dans notamment Les Cyclades de Marc Fitoussi avec Christine Scott Thomas et Laure Calamy, par exemple. Et vous disiez que vous la connaissez depuis longtemps. C'est le hasard quand vous jouez à deux ou bien vous arrangez un petit peu pour être dans le même film ?
Je ne vais pas tout dire.
C'est vrai. Il y a aussi, donc, non, pour l'instant, non provisoire, Pétaouchnok d'Edouard Deluc, avec Pio Marmaille, Camille Chamou et Philippe Rebaud. Là aussi, il y a une famille, une petite famille d'acteurs.
On s'est retrouvés, oui, Philippe et Camille. Camille, c'est une de mes meilleures amies, donc c'était vraiment la joie.
Avec vos amis, quoi.
Bah là, c'est vrai que j'ai enchaîné deux films avec mes meilleures amies, donc j'ai vraiment été très chanceuse. Et Philippe Rebaud, on avait déjà tourné ensemble, et oui, c'était... c'est marrant parce que Pétaouchnok, non, Schneck, Pétaouchnok, c'est vraiment... un film de groupe.
Ouais.
Et voilà. Et Les Cyclades, c'est vraiment un duo pour le coup. Donc c'était vraiment une manière d'illustrer l'amitié de manière différente.
Moi, j'ai une question. Deux comédies
fait le duo.
Est-ce que vous préférez jouer un mauvais film avec des amis ou dans un bon film avec des acteurs que vous détestez ?
Un mauvais film avec des amis, je reste. Mais évidemment ! Mais la question, mais vive le cinéma, bien sûr ! Vive l'art !
Olivia Cotte avec nous, vous l'entendrez à la fin de cette émission. L'une d'entre nous s'est installée au piano, Alex.
Eh bien, j'ai la bonne feuille. Et je sais. Du coup je sais qui c'est.
Coup de bol.
Ben oui, c'est autour de celle qui, en chanson, parle aux enfants comme on n'oserait pas nous parler aux adultes. C'est Guédré.
Et oui, bonne année les enfants. Les enfants, la prochaine fois qu'on vous dit que vous êtes demeurés parce que vous ne comprenez pas la différence entre le 31 décembre et le 1er janvier, c'est pas facile à caler celle-là. Ne restez pas là sans rien dire comme des cons ou à pleurer comme des mauviettes. Répondez, prenez position, surtout que pour une fois, c'est pas vous les plus bêtes. Chaque année, depuis 2021 ans, on continue à se souhaiter une bonne année. Alors que depuis 2021 ans, il n'y a jamais eu une seule bonne année. 12 mois de merde passent et nous, à minuit, on se lève et on crie « Ouais !» On est tout content, c'est la fête, youpi. Et c'est reparti pour 12 mois à avoir envie de crever.
C'était Guédré. Vous pouvez toujours écouter. écouter ses chansons romantiques au piano, bien sûr. Et elle est toujours en tournante, comme elle dit, dans toute la France. Merci, Guédré.
Vous ne l'assumez pas.
Meilleur vœu. Ouais. Meilleur vœu. Rasseyez-vous parmi nous, Guédré, car Alex va nous dire qui est dans ce studio pour ce Parjupiclas sur France Inter.
On a déjà entendu Guédré. Je ne connais que vous. Thomas Bilguin et Juliette Arnaud. Nous allons entendre ensuite ceux qui participent au Dry January, eux. Laëlia Véron et Olivia Cotte. Mais avant cela, celui qui participe parce qu'il empêche les autres de faire le Dry January, puisqu'il les saoule toute l'année. C'est Guillaume Meurice.
Alors, les pitchouns, premier Parjupiclas de l'année. Aujourd'hui, on va apprendre le respect. Alors, j'avais prévu d'interroger directement Emmanuel Macron, mais il m'a répondu, écoute-moi bien, fils de chien, restons unis, solidaires et bienveillants, mais va bien niquer ta race et manger tes grands morts. Et Emmanuel Macron, qui assume donc d'emmerder les non-vaccinés, a rajouté aux grandes phrases des grands présidents de la 5e République, je vous ai compris, vous n'avez pas le monopole du cœur, et bientôt je vous pisse à l'arbre. Alors, ça, ne le faites pas chez vous, les enfants, c'est un truc de président, pour apaiser la société. Ah, vous voyez, c'est comme soigner la syphilis au lance-flammes, c'est vraiment un truc de professionnel. Et je vais vous dire un truc, emmerder les gens, c'est un truc de professionnel. Et c'est un petit peu mon métier quand même, mon petit pote. Donc le plagiat, ça va deux minutes. Donc je me suis senti concerné, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ben je suis allé moi-même emmerder des gens anti-vaccins, mais avec du respect. Je vous rappelle le respect. Alors pourquoi ce jeune homme est anti-vax?
Parce que je suis en très bonne santé et puis je sais pas si on a vraiment besoin de faire un vaccin pour se prémunir d'éventuelles maladies.
Mais est-ce que le principe du vaccin, c'est pas justement...
Oui, mais je comprends pas, les gens, ils font les vaccins, mais ils ont quand même le Covid.
Ouais, mais est-ce que la ceinture de sécurité dans une voiture, ça empêche les accidents, pardon?
Bah non.
Bon, donc après, est-ce que la ceinture de sécurité, ça sert à rien?
Ça sert pas à rien, parce que si il rentre dans une voiture et qu'au moins ça le retient, et il aura moins de chances de mourir.
Je trouve le vaccin, c'est pareil.
Bah ouais, c'est peut-être pareil aussi, j'en sais rien.
Mais... Et voilà, voilà, on peut emmerder les gens, mais avec respect, voilà, dans le respect des gestes barrières, et il s'appelle Rio Kézac. Voilà. Alors ça, faites-le chez vous, les enfants, faites-le en famille, c'est important, en famille.
Moi, j'ai ma mère de 67 ans qui fume.
Et elle est vaccinée ou pas?
Ma mère, elle a pas fait le vaccin. Elle l'a pas fait, elle veut pas le faire. Bah, du moins, je veux rien qu'on me mette dans mon corps.
Et elle fume.
Et elle fume.
Donc elle a pas peur de mettre du goudron, de
la maniaque,
j'en sais rien. Voilà, c'est le doute. C'est ça aussi le respect des enfants. On laisse les gens douter. Peut-être le goudron, l'ammoniaque et même le Lexomil en intraveineuse, c'est bon pour la santé. Regardez, Houellebecq, il ressort un bouquin. Donc il y a quand même des preuves. Alors peut-être que le vaccin, c'est quoi?
Le vaccin, c'est un poison.
Ah oui, à ce point-là?
Oui, c'est un poison. J'ai vu un monsieur ce matin, il s'est écroulé devant moi à Nation. C'est un poison.
Ah, mais on est sûr que c'était à cause du vaccin?
Le vaccin, c'est un poison.
Peut-être qu'il avait raté une marche.
Il est tombé.
Oui, s'il est tombé, il y a de grandes chances évidemment que ce soit le vaccin. Je sais parce que mon petit neveu pendant les vacances, il est tombé en vélo. Et juste avant, il avait vu Véran à la télé. Donc il y a quand même, c'est scientifique hein, tout ça, bien évidemment. D'ailleurs, ce monsieur, il s'y connaissait bien parce qu'il vendait quoi?
Des crèmes antivirus.
Qu'est-ce que c'est ça, les crèmes antivirus?
Alors c'est à base de karité, coco et nigel. C'est déjà 3 antivirus. Le virus, il en a peur.
Il a peur de ça?
Le virus a peur de la vitamine D et la vitamine E. Et cette crème, elle a 3000 ans. C'est la princesse Nefertiti qui l'utilisait.
Et elle n'est pas morte du Covid?
Et elle n'est pas morte du Covid.
Et voilà comment on fait avancer la science dans ce pays. Plutôt que d'insulter les gens, voilà, c'est quand même mieux de faire parler les antivax. Vous voyez, faites-les parler le plus possible. On apprend des choses sur l'huile de coco, par exemple. Voilà.
C'est un antimicrobe, un antibactérie et un antivirus. Ça tue les poux, l'huile de coco bio.
Ah ben, c'est pour les poux, c'est efficace, ça c'est bien.
Très efficace. Donc si ça tue les poux, ça éradique le virus.
Ah oui,
parce
ça,
que
c'est
le poux, c'est un microbe, c'est un virus.
Le pouls, c'est un virus?
Mais bien sûr, c'est un microbe.
On est sûr de cette information?
Ah oui.
Je préfère toujours bien demander, quand même. C'est ça aussi la science. Voilà, voilà. Mais voyez, la recherche scientifique, elle vient de faire un bond de 40-50 ans, quoi, d'un coup. Voilà. Voilà. Donc, sur un marché, faites-le, les enfants, c'est important. Prenez simplement le temps de respecter les gens, voilà, et de respecter même les vaccinés. On respecte tout le monde, même si cet autre monsieur, bon, il est un petit peu mécontent, quand même.
On m'a obligé à faire le Pfizer. Moi, je voulais faire le AstraZeneca.
Pourquoi vous vouliez celui-là?
Parce que ça me semblait mieux que le Pfizer. Parce que la Pfizer, il y a la molécule qu'on connaît pas là.
Quelle molécule?
On la connaît pas, je trouve.
Je suis con, moi. Je suis con avec mes questions. Il y a une molécule qu'on connaît pas, donc on peut pas l'observer puisqu'on la connaît pas. Moi, c'est pareil, je suis en permanence suivi par une licorne invisible. Arrête! Oh, elle est chiante, c'est relou. Elle me cogne tout le temps. Voilà, c'est pénible. Allez, terminons la leçon de respect, les enfants, par mon triple vacciné du jour. C'est Roger. Roger, il est vacciné. Qu'est-ce qu'il pense de Macron?
Si tu n'envoies pas des gros mots, les gens ne comprennent pas.
Ah, donc il a eu raison de dire ça.
Oui, pour une fois, ça change. Hein. Ouais. Et puis les gens, comme disait Jean-Jacques de Gaulle, les gens, c'est dévot.
C'est vrai, ça, Roger, que les Français sont dévots ?
Ils n'écoutent que des conneries, les gens.
Mais est-ce que vous ne faites pas partie des gens, vous, Roger ?
Si, mais moi, je ne suis pas comme cela.
Et voilà, c'est pas Roger, c'est pas pareil. Voilà, c'est ça qu'il a réussi, Macron, à diviser encore plus les gens qui étaient déjà bien divisés. Et ça, je trouve, c'est une belle performance. Alors, il a aussi dit, il ne faut pas l'oublier, un irresponsable n'est plus un citoyen. Dans la même interview, attention, hein, gros respect. A priori, bon, peut-être quand même un président, voilà, il a le droit d'être irresponsable. Sauf son respect, bien évidemment, qu'il aille quand même bien se faire cuire le cul.
Guillaume Meurice, depuis la création de cette émission, est-ce que vous aviez espéré ça un jour, l'arrivée des anti-vax quand même.
Bah oui, c'est fournisseur officiel de chronique, oui, oui. C'est un puissant fond.
C'est vraiment.
J'avoue que j'avais pas vu venir Nefertiti.
Non, non, plus.
Et vous avez pas ramené un pot pour nous.
Non, mais ça doit être périmé, la crème, elle a 3000 ans.
Oui, ça,
moi, je mets pas ça sur moi. Hein.
Allez, revenons à la raison, au cartésianisme des exercices de par Jupiclas, Alex.
Oui, qui dit cartésianisme dit Valérie Pécresse. Elle a dévoilé son QG. Son QG, quelle est la particularité du QG de Valérie Pécresse? Alors, réponse A, pour simplifier les choses, elle partage directement son QG avec Emmanuel Macron, comme son programme, son slogan et ses affiches de campagne. Réponse B, il est au 9 rue des Italiens, dans le 9e, adresse du pôle financier du parquet, pour gagner du temps quand le canard va sortir une info. Réponse C, sur la porte du bureau d'Éric Ciotti, il est écrit « Autorité ». Réponse. Il abrite un salon de coiffure Jacques Dessange à l'autre bout du bureau où il serait écrit « Autorité », bien évidemment.
Vous avez ri sur toutes les réponses. Or, il y en a une bonne.
Moi, je sais, parce que j'étais hier. Je peux pas.
Attention, concentrez-vous, parce que là, moi, j'ai un exercice très difficile. Dans cette élection présidentielle, qui sera le candidat de La République En Marche?
Ah, c'est dur, ça.
Petit A, Alexandre Benalla. Petit B, le duo McFly et Carlito. Petit C, on attend qu'il soit désigné par le patron du MEDEF. Petit D, on ne saura peut-être jamais, on mourra avant. Petit E, l'actuel président de la République. Ça me paraît assez peu...
C'est vraiment un hasard. Quoi. Des députés de l'opposition ont fait un coup de théâtre lundi soir lors de l'examen de la loi sur le pass vaccinal en suspendant la séance grâce à leur arrivée dans l'hémicycle pile au moment du vote de la poursuite ou non de la séance. Mais comment s'appelle ce coup? Il y a un nom spécifique, ce coup. Alors, réponse A, est-ce que ça s'appelle le coup des bâtards? En tout cas, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal. Est-ce que ce coup s'appelle le coup du chef? Parce que j'aime bien dire chef, même si je le dis pas très très bien. Réponse C, est-ce que ça s'appelle le coup du rideau? Et ça, c'est une figure de style qui s'appelle une paraflûte. Saviez pas ça, là, Elia? Eh non, puisque je viens de l'inventer. Ou réponse D, ça s'appelle le coup de la flemme, aussi appelé le coup du... Tiens, je sais pas comment finir le journal de 17h17, je vais aller sur Yahoo Insolite pour trouver des brèves.
Merci Guillaume. Les énoncés et les réponses sur notre page Facebook de Par Jupiter. Le langage, c'est politique, bien sûr, évidemment. Alors, au sein de la troupe, nous avons une linguiste et stylisticienne, maîtresse de conférences à l'université d'Orléans.
Oh, ça claque quand même.
Et elle dispense aussi ses cours sur Twitter. C'est donc, vous l'avez dit, Guillaume, c'est là, Elia Véron.
Merci, Charline. On va parler des fautes et des règles, parce qu'en grammaire, on a l'habitude, c'est logique, d'opposer les règles et les fautes. Mais savez-vous qu'il y a plein de fautes qui deviennent des règles et que ça fait partie de l'évolution logique d'une langue? Je vais vous donner quelques exemples empruntés en partie au linguiste Henri Frey dans La grammaire des fautes. Alors, par exemple, du point de vue de la phonétique, on peut citer les métathèses, c'est-à-dire les modifications phonétiques d'un mot par le changement de place d'un ou de plusieurs sons. Par exemple, fromage, ça vient du latin formaticum, formaggio en italien, et on le prononçait formage, et puis par erreur, fromage, et finalement, la forme fautive s'est imposée.
D'ailleurs, c'est Frédéric Formé, en fait.
On lui dira. De même, on disait d'abord mosquite de mosquito, mais le mot est devenu moustique par erreur. Même chose pour brebis, qui vient du latin berbicem, et qui se prononçait berbi. Du point de vue phonétique encore, vous connaissez ces fautes de liaison quand on ajoute un Z, par exemple quand on dit 2 euros, 3 euros, et par erreur d'analogie, 4 euros, 100 euros. Eh bien, cette erreur-là, par exemple, elle donne la forme « quatre yeux » entre « quatre yeux » qui a donné le verbe « jeter », qui est maintenant tout à fait jugé correct. Ah. Et oui, c'est beau. Et du point de vue maintenant sémantique et lexical, il y a des tournures qui étaient jugées fautives qui sont maintenant acceptées. Par exemple, embrasser, ça veut dire tenir dans ses bras. Et donc, si vous disiez embrasser sur la joue, sur la bouche, c'était jugé aberrant. Et maintenant, la forme est jugée correcte. Et dans la même catégorie, il y a plein de gens qui se plaignent de la tournure au jour d'aujourd'hui en disant que c'est un pléonasme, qu'on dit deux fois la même chose. Mais au fait, aujourd'hui est déjà un pléonasme, puisque « oui » voulait dire « le jour où nous sommes ». Donc aujourd'hui, c'est « au jour du jour où nous sommes ». Et « au jour d'aujourd'hui », c'est « au jour d'au jour du jour où nous sommes ». Et finalement, aujourd'hui est un pléonasme, comme « monter en haut, descendre en bas » ou « s'avérer vrai », mais maintenant, il est jugé correct. Et ce qui est rigolo pour nous, linguistes, on s'amuse comme on peut, c'est de se demander quelles sont les prochaines fautes qui vont devenir des normes. On a des métathèses en formation. Par exemple, est-ce que vous êtes sûr de distinguer la forme correcte entre « infarctus » et « infractus » ?
Oui.
Infarctus. C'est infarctus, effectivement, mais infarctus est de plus en plus en train d'être dit et c'est possible que ça change. Pareil entre aéropage et aréopage. Et je pense aussi, d'ailleurs, j'ai un bon exemple grâce à vous, au après-que plus indicatif qui est en train de laisser la place au après-que plus subjonctif par analogie avec le avant-que. Alex a dit après qu'elle l'ait voté. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus en train de se dire. C'est devenu une nouvelle règle alors que certaines grammaires vont recommander encore après qu'elle l'a voté, par exemple. Que conclure de ça ? Alain Rey disait que la faute d'aujourd'hui, c'est la norme de demain. Il suffit pour cela qu'elle se répète. Ça marche en linguistique sur le temps long. Même si vous êtes très normatif, je ne crois pas que vous disiez « après qu'il a mangé, il va parler entre quatre yeux du fromage de Barbie ». Ce qui n'empêche pas de corriger l'erreur sur le temps court. La question qui se pose alors, c'est de savoir à quel moment s'opère le basculement, à quel moment on finit par enseigner l'ancienne erreur comme une nouvelle règle.
Là, il y a Véron. Mais ça veut dire que l'usage fait loi ?
Mais tout à fait, Charlie.
Dis donc, mais ça, ils le savent à l'Académie française.
Il n'y a pas beaucoup de choses qu'ils savent.
Merci, Laëlia Véron. On peut vous réécouter en podcast, bien sûr. Et si vous découvrez l'émission, vous pouvez réécouter tous les podcasts. Ça va vous prendre quelques années, je pense.
Du coup, peut-être un jour, on dira 8 pour de vrai.
Mais ça, c'est mon
si
but.
Les gens répètent.
Et Twist, et Huître, et Twitter, c'est vraiment mon but dans la vie.
Vous êtes l'avant-garde.
Mais c'est pour ça que je suis arrivée sur France Inter.
C'est incroyable.
Il est 17h50, les amis. À suivre, bien sûr, la Jupy Masterclass de cinéma
attendu.
D'Olivia Cotte. En attendant, si ça vous dit, le nouveau Stromae ? Si ça vous dit,
bah
hein.
Oui,
sinon
dit.
On arrête.
Bah oui.
Ok, alors on le laisse.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire. Toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière. Chauffeur de camion, hôtesse de l'air.
boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Cœur aux célébrations,
lever son verre pour ceux qui n'en ont pas, nous on veut bien, bien aussi, hein, bien ça fait du boulot, mais on est prêt à lever le coude, pas de problème. C'était le dernier Stromae sur France Inter dans la playlist, bien sûr, un titre qui a beaucoup plu à Olivia Cotte, n'est-ce pas?
Elle était concentrée.
Le disque est parti, vous avez dit, oh, elle est extraordinaire cette chanson.
Oui, mais parlait de celle de Guédré.
Ah bah oui, je parlais de celle de Guédré. Ah oui, je parlais de celle de Guédré.
Ah, mais j'aime autant, j'aime autant. Je préfère
tout,
ça, mais
j'ai découvert, je suis désolée, j'ai pas écouté.
Mais on nous confond souvent avec Stromae.
Oui, c'est ça.
Bon, reconcentrez-vous, Olivia.
Oui, je me concentre.
Ne ratez pas ce qui va suivre, chers auditeurs, parce que je peux vous dire qu'elle a bossé. Je peux vous dire qu'elle a bossé.
J'ai pas dormi pendant 10 nuits, c'est un peu vrai, c'est vrai.
Elle a aussi harcelé notre attaché de production.
Absolument.
Mathias Volant, qu'on remercie.
Mon nouvel ami.
Et on est curieux de découvrir vos choix de cinéma. Olivia Cotte.
Oui. Bah, alors, en fait, parce que quand j'étais adolescente et qu'on me demandait c'est quoi ton film préféré, je répondais automatiquement Chantons sous la pluie, que j'ai découvert à 10 ans. Et là, j'ai 47 ans. Depuis, j'ai vu pas mal de films. Beaucoup m'ont marqué. Je ne peux plus répondre aussi spontanément à cette question. Et pire, je tombe littéralement dans un gouffre. Je me suis dit, écoute, fais simple, reste sur Chantons sous la pluie. Déjà, le titre est merveilleux. Je le répète souvent comme un mantra d'encouragement. Allez, même si c'est la merde, on chante, on danse. Donc, ok, chantons sous la pluie. Et une nuit, dans un grand fracas, l'héroïne du sublime film La leçon de piano de Jane Campion surgit. Et juste avec son regard me dit, attends, quoi, tu vas pas parler de moi? Bah, si, j'ai très envie de parler de toi, mais je tombe dans un gouffre. Ce choix est impossible. Un seul film? Au bout de la 10e nuit d'insomnie, Gene Kelly, non mais c'est vrai, Gene Kelly lui-même se pose sur le bord de mon lit et me dit « Écoute Olivia, la question c'est de quoi t'as envie de parler le 5 janvier 2022 à la radio? Du cancer du pancréas? Du salaire honteux des auxiliaires de vie? Pourquoi pas? Mais non, pas là, non, pas là. Sur ce, j'ai un flash, je me rappelle d'une phrase, je sais plus de qui, mais je l'adore. « Le monde ne mourra pas du manque de merveille, il mourra du manque d'émerveillement. » Là, avec Gene Kelly, on se tape dans la main, ça y est, on a trouvé le thème, l'émerveillement. Je vous passe le moment où on a dû choisir ce qui m'émerveillait le plus dans la vie, mais on a tranché. Ce qui m'émerveille le plus en ce moment, on va dire, c'est l'amitié et la joie. Et bim, 3 films, parce que vous avez compris qu'en choisir qu'un seul, j'y arrive pas, se sont imposés. Je vais évidemment commencer par Chantons sous la pluie, réalisé en 1952 par ce bon vieux frère de Gene Kelly et Stanley Donen. Pour rappel, c'est l'histoire d'un gars, Don Lockwood, qui va se retrouver au chômage et au désespoir, mais son meilleur pote depuis toujours, Cosmo Brown, va trouver une solution pour qu'il s'en sorte. Petite fille, de tout ce qui m'émerveillait et me réjouissait dans ce film, les répliques hilarantes, les danses athlétiques, désopilantes ou sensuelles, les chansons qui célèbrent la joie de vivre et la rigolade, ce qui m'a le plus émerveillée, c'est l'amitié entre Don Lockwood et Cosmo Brown. D'ailleurs, j'en avais absolument rien à fiche de l'histoire d'amour avec Cathy Selden, qui était super, hein, elle est très mignonne. Mais moi, ce qui me réjouissait le plus, c'était l'amitié de ces deux gars et de les voir danser ensemble. Parce que je crois que jusqu'à l'âge de 10 ans, je ne voyais que des gars se battre dans la cour d'école, dans la rue, partout. Et là, tout d'un coup, je voyais des hommes danser ensemble. L'émerveillement. Le deuxième film est évidemment Les Rois du Patin, réalisé en 2006 par Will Speck, Josh Gordon, évidemment.
Oui,
c'est tout bonnement le film qui me fait le plus rire au monde.
C'est l'histoire de 2 champions de patinage artistique, Chaz et Jimmy. Chaz est gros, sex addict et alcoolique. Jimmy est maigre, puceau et n'a jamais bu une goutte d'alcool. À part le patinage, ils ont un seul point commun. La seule histoire d'amour qu'ils ont dans leur vie, c'est avec leur brosse à cheveux. Vous comprendrez quand vous verrez leur brushing. Ces 2 champions, rivaux depuis toujours, se détestent viscéralement. Et malgré cette haine, ils vont devoir patiner ensemble. Créer le premier duo d'hommes de l'histoire du patinage. Ils vont devoir se porter, et dans certains portés, du coup, se retrouver avec l'appareil génital de l'autre dans le nez. Ils vont devoir être solidaires sur la glace et dans la vie. Au-delà des répliques et des chorégraphies qui m'obligent à mettre une couche à chaque fois que je regarde le film, ce qui m'émerveille, c'est leur découverte de l'amitié. Oui, de voir des hommes danser ensemble sous la pluie ou sur la glace, ça m'apporte beaucoup plus de joie que de voir des hommes se maraver la gueule ou chercher à se dominer. Le troisième film, c'est First Co, première vache donc, réalisé il y a 2 ans par Kelly Richard. C'est pas du tout une comédie, mais il m'a profondément émerveillée. Ça parle de 2 hommes tendres et doux qui se rencontrent dans le Grand Nord américain à la fin du 19e siècle, où règne une violence et une précarité inouïes. Ils se sauvent la vie, se serrent les coudes, rêvent ensemble à un meilleur avenir, font des pâtisseries et des bouquets de fleurs pour embellir leur misérable cabane.
Oh.
Absolument. Ils finiront mal, on le sait dès le début du film, mais grâce à cette amitié, ils auront connu la joie. Ces 3 films me donnent envie de remercier plusieurs catégories d'hommes. Les hommes qui dansent, les hommes qui aiment les fleurs, les hommes qui glissent et ceux qui chantent sous la pluie.
Ouais, et il n'y en a pas des tonnes.
What a glorious feeling, I'm happy again.
Merci Olivia Cotte, merci beaucoup. Je sais que vous avez mis beaucoup de cœur et beaucoup de travail pour cette chronique, c'était un plaisir.
On peut le dire,
merci.
Le 4e film c'était Brokeback Mountain.
Et on vous verra donc prochainement dans Les Cyclades, on espère cette année. Oui. Merci beaucoup Olivia et merci à tous les amis d'avoir mis la patate pour cette émission.
C'est oui.
Je vous dis à demain, nous recevrons la politologue Frédérique Matonti, car elle publie un essai qui nous intéresse au plus haut point. Il s'intitule « Comment sommes-nous devenu réac ?»
Mais j'aurais pu dire fasciste ou collabo.